Bonsoir, l'actualité des Alpes du Sud de ce mercredi 14 décembre est à la une. 30 pompiers mobilisés ce matin sur l'incendie d'un restaurant aux Ors. S'il n'y a pas de blessés à déplorer, la cuisine de l'établissement a été détruite. Daniel Spagnou rend sa carte des Républicains. Le maire de Sisteron est président de l'association des maires dans les Alpes de Haute-Provence après sa décision après l'élection d'Éric Ciotti à la tête du Parti National. Le transfert des routes nationales au département des Hautes-Alpes n'avance pas. Un rendez-vous de la dernière chance a été demandé avec le ministre des Transports Clément Beaune pour laisser en dehors de la gestion départementale 4 sites avec des travaux d'envergure. 172 000 travailleurs de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sont pauvres. C'est le constat que mène l'INSEE lors de sa dernière étude. Les hommes sont les plus représentés, tout comme les moins de 30 ans. Et pour commencer, donc, un restaurant a été touché par un incendie aux Ors. C'est vers 5h ce matin que l'alerte a été donnée. 30 pompiers, 13 véhicules ont rapidement été mobilisés sur place. Peu avant 7h, le feu était éteint. La cuisine de l'établissement a été détruite. Le restaurant a aussi été impacté par le sinistre, indiquent les secours. Il n'y a pas de blessés à déplorer. Un suspect aurait été identifié suite aux dégradations dans le centre-ville de Sisteron. Elles ont eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi. Rue droite de la Sonnerie, des pots de fleurs, des décorations ont été renversées et piétinées. Une plainte avait d'ailleurs été déposé lundi par la commune. Selon le maire, les enquêteurs ont pu remonter la trace d'un individu domicilié en dehors des Alpes de Haute-Provence grâce aux caméras de surveillance infrarouges. Après le maire de Manosque, celui de Fort-Calquier et celle de Barcelonnette, Daniel Spagnou rend à son tour sa carte des Républicains. Le maire de Sisteron est président de l'association des maires dans les Alpes de Haute-Provence a pris sa décision après l'élection d'Éric Ciotti dimanche à la tête du Parti National. Daniel Spagnou qui s'exprimera demain sur cette question sur Alpes 1. Il sera en effet l'invité du 8h30 ce jeudi. Dans l'actualité également, 153 km de route nationale pourraient être prochainement gérés par le département des Hautes-Alpes grâce à la loi 3DS. Mais le département refuse de récupérer la gestion de certaines zones, 4 précisément, qui nécessitent de lourds travaux. Le pont de Savines-le-Lac, la montée de l'Argentière-l'ABC au lieu dit Sainte-Marguerite, la route vers Montgenèvre, mais aussi la déviation de la Roche de Rame. Alors que les discussions sont au point mort du côté de l'Adréal et de la Dirmède, le département a donc directement interpellé le ministre des Transports Clément Beaune à travers un courrier, explique Marcel Cana, le vice-président du département des Hautes-Alpes, en charge des routes.
Le principe, c'était de prendre une délibération pour savoir si tout le monde était d'accord qu'on puisse négocier avec l'État et avec le ministre. C'est une délibération qui a reçu l'unanimité, qui a été présentée par le président du département, qui a reçu l'unanimité de l'ensemble des conseillers départementaux. Et si le ministre refuse catégoriquement ces points précis, écoutez, on ne va pas laisser la charge aux contribuables ou alpins, ce seront les charges des contribuables, mais cette fois de la nation et de l'État. C'est bien dommage parce qu'il y aurait pas mal de travaux à faire sur le réseau national pour le moderniser. Écoutez, on restera avec ce réseau national tel qu'il est encore, peut-être encore 20 ou 30 ans ou 40 ans.
Et le département des Hautes-Alpes estime à plus de 50 millions d'euros le coût de ces travaux sur ces 4 sites spécifiques. Les représentants de l'État proposent une compensation financière d'un peu plus de 6 millions d'euros par an pour les 153 km de route. Un accord transfrontalier de prise en charge des patients italiens sur l'hôpital de Briançon pourrait voir le jour prochainement. Le sujet a été mis sur la table par le sénateur des Hautes-Alpes Jean-Michel Arnaud lors des questions au gouvernement. Il a interpellé hier Agnès Firmin-Lebaudeau, ministre déléguée de l'Organisation territoriale et des professions de santé, alors que la caisse primaire d'assurance maladie ne prend plus en charge les consultations de patients étrangers réalisées au centre hospitalier des Escartons. Un manque à gagner de 2,5 millions d'euros pour l'établissement, selon le parlementaire, avec une patientèle italienne importante et un quart des professionnels de santé de l'hôpital qui viennent de l'autre côté des Alpes. Une solution doit être trouvée, selon lui, car l'avenir du centre hospitalier à Briançon est en jeu. Une solution qui devrait être mise en place au début de l'année prochaine avec la préparation d'un projet d'accord de coopération sanitaire transfrontalier qui encadrera juridiquement les soins des populations dans les territoires comme le Briançonnais. Ce chiffre dans ce journal, 172 000 travailleurs seraient pauvres en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, selon la dernière étude de l'INSEE, une pauvreté qui ne résulte pas toujours de revenus d'activité faibles. Un travailleur pauvre sur trois a un revenu d'activité supérieur au seuil de pauvreté, indique l'INSEE. Car pour définir la pauvreté, c'est l'ensemble des revenus du ménage, la composition de ce dernier, mais aussi les effets de la redistribution, donc des prestations sociales qui sont prises en compte. Olivier Sanzery, chef de projet à l'INSEE, dresse le portrait de ces travailleurs pauvres.
On remarque que les hommes sont surreprésentés parmi les travailleurs pauvres et également les jeunes de moins de 30 ans. Les travailleurs pauvres connaissent des conditions d'emploi qui sont plus précaires, donc pour les salariés, moins souvent à contrat à durée indéterminée. Les travailleurs pauvres sont également plus fréquemment à temps partiel. En termes de catégories socio-professionnelles, les travailleurs pauvres sont plus souvent des artisans ou des commerçants. Ils sont également plus présents parmi les ouvriers. Donc, on remarque que les employés des services directs aux particuliers sont plus concernés par la pauvreté au travail, notamment dans les secteurs de la restauration, de l'hôtellerie ou des travaux domestiques. En termes de conditions de vie maintenant, les travailleurs pauvres vivent plus souvent seuls, donc au sein d'un ménage d'une personne, mais aussi plus souvent dans une famille monoparentale. Les travailleurs pauvres vivent plus souvent au sein d'une famille nombreuse, donc une famille de plus de trois personnes.
Et notez qu'en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en 2019, 17,1% des habitants vivaient sous le seuil de pauvreté, qui est de 1102 euros par mois, contre 14,5% en France métropolitaine. PACA se situant au troisième rang des régions métropolitaines par l'importance de sa pauvreté après la Corse et les Hauts-de-France. Le gouvernement ne prendrait-il pas les bonnes décisions dans la crise énergétique qui touche actuellement le pays? C'est en tout cas ce que pense Didier Long, le président de l'UDEO dans les Alpes de Haute-Provence. Selon lui, face à cette crise, les entreprises du territoire sont de plus en plus inquiètes. Certaines tentent de s'adapter en faisant travailler leur personnel de nuit pour éviter que la facture ne grimpe trop, quand d'autres envisagent tout simplement de fermer les chaînes de production. Les conséquences seront donc lourdes et multiples selon Didier Long. Écoutez-le.
J'avais alerté, moi, dès le départ, ce risque de fermeture de soit de chaînes de production, soit carrément d'usines. Il y a les conséquences directes, mais toutes les conséquences indirectes à ces fermetures. C'est tous ceux qui vont travailler, tous les prestataires de services qui vont travailler autour de ces usines. Ça va être le transport, ça va être les revendeurs. Est-ce qu'à un moment donné, ça va pas être aussi le produit qui va être beaucoup plus cher?
On n'a pas anticipé suffisamment, selon vous, la crise énergétique?
Absolument. Et on prend des décisions à la va-vite qui n'ont pas de sens. Par exemple, quand on parle de l'énergie fossile, il n'y aura plus de véhicules à énergie fossile qui sera vendus sur le territoire. Moi, je vais vous donner un exemple simple. Transport routier. Un véhicule énergie fossile, c'est 110 000 euros. Un véhicule énergie électrique, c'est 400 000 euros. Un véhicule énergie hydrogène, c'est 900 000 euros. Ça veut dire qu'en 2035, une entreprise comme la mienne va devoir multiplier entre 4 et 9 ses investissements.
Didier Long au micro de Cyrielle Cavé-Michard, invité hier du 8h30 d'Alpe 1. Une école d'excellence pourrait se poser dans les Hautes-Alpes. Une haute école du bois et de la forêt devrait ouvrir ses portes à Embrun et à l'Argentière-la-Bessée. Un projet initié par un jeune Alpin diplômé dans les gestions forestières, Florian Cour, qui est désormais porté par une association gestionnaire. Elle regroupe des partenaires privés et publics, dont deux intercommunalités, celle du Pays des Écrins et celle de Serponçon. Pour la présidente de la communauté de communes de Serponçon, Chantal Emeoud, cette école pourrait être très bénéfique pour l'économie locale.
C'est à la fois des personnels techniques et administratifs qui seront recrutés, ce sont des enseignants-chercheurs, ce seront des étudiants, ce sont des formations qui sont des diplômes d'ingénieurs. On a des étudiants et des stagiaires en formation. Tout ça constitue une réserve d'emplois supplémentaire et nouvelle qui n'existait pas. Et puis, c'est tous ces jeunes qui vont être formés pourront également par la suite souhaiter maintenir leur vie ici, sur notre territoire, et réaliser soit leur entreprise, soit finalement intégrer une entreprise existante déjà.
Et l'établissement pourrait ouvrir en 2026. Il réunira 5 formations du niveau bachelor et ingénieur parmi 4 parcours métiers: production, construction, commercialisation et forestier. Dossier signé Christophe Lourenço à retrouver dans son intégralité sur alpe1.com. Un concours régional au Chaffaut Saint-Jurçon pour désigner le meilleur jeune éleveur de brebis. Dans le cadre du programme Innovin qui réunit l'ensemble de la filière ovine, l'interprofession bétail et viande organise demain matin les 18e Ovinpiades des jeunes bergers au lycée agricole de Carmejane. Cette épreuve les départageront. Les deux meilleurs candidats représenteront alors la région PACA à la finale nationale. Elle aura lieu au Salon international de l'agriculture à Paris le 25 février prochain.
L'actu des Alpes du Sud continue sur alpe1.com.